l'hippogramme et anaphore. Oui, vous avez bien entendu, l'hippogramme et anaphore. Des chroniques littéraires, des événements locaux autour de l'écriture et de la littérature. Le vendredi à 17h05, c'est très précis, après les portraits d'Occitanie, et vous l'entendrez deux fois par mois. Bonjour, écoutez attentivement les trois minutes suivantes. Attention, prêtez l'oreille et la bonne.
Il était une fois, et puis une fois il n'était pas. Ou, je ne sais, quand j'ai oublié, mais quoi qu'il en soit, il était une fois. Il était une fois, une marchande de foie qui vendait du foie
dans la ville de foie.
Elle se dit, ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de foie. Pi o ni o kai o ni ba, pi ba ti o kai ba ti ba, pi snish o kai snish ba. O ni pi a ba ni kaya en marcané. Au bout du pont, la canarie, le port a chu. Au bout du pont, la canicou, la poulipon. Mur usé, creux siffé, racimé. Latoté, crucifié, racimi. Iris, ri, silibis, glisse. Et que lilili sous ce lilala? Lililililiade. Angèle et Gilles, Angile et gel. C'est fou, Sophie, ce que nous fîmes sur ce sofa-là. As-tu vu le tutu de tulle de Lulu d'Onolulu ? Natacha, Natacha pas la queue du chat, pas chat qui s'échappa, ce qui fâcha Sacha, qui chassa Natacha. Petite truite cuite, petite truite crue. S'il est malade à la salade, pour qu'il guérisse à la réglisse, portez-lui à minuit 8 fruits cuits. Si les 8 fruits cuits lui nuisent, portez-lui à minuit 8 fruits crus. Tu m'as cru? Tu m'as cuite. Cru, cuite, cru, cuite. Tas de riz, tas de rats. Tas de riz tentant, tas de rats tentés. Tas de riz tentant, tentat, tas de rats tentés. Tas de rats tentés, tatat, tas de riz tentant. Tas de riz, tas de rats. Tas de riz. T'adora. Ah, pourquoi, Pépita sans répit, m'épies-tu? Dans le puits, Pépita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié. C'est pitié de m'épiller, c'est piteux de m'épiller, Pépita, ne peux-tu te passer? Il était une fois un homme et une femme. Ils n'avaient qu'une dent, ça c'est le commencement. Ils n'avaient qu'un pied, ça c'est la moitié. Et ils n'avaient qu'une main, et ça, c'est la fin.
Vous connaissez certainement certaines de ces phrases, sans queue ni tête, ne serait-ce que panier piano, panier piano, panier piano, ou les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-chèches? Alors, dans l'exécution magistrale de cet enchaînement de jeux de mots que vous venez d'entendre, donc vous avez entendu Brigitte Agulon, conteuse et spécialiste en virelangue. Parce que, en effet, c'est effectivement ainsi que se nomment ces jeux de mots, des virelangues, dont la diction rapide est une véritable prouesse. Alors, je vous en donne une définition trouvée sur Internet. Le virelangue, ou encore casse-langue ou fourche-langue, est une locution ou une phrase ou un petit groupe de phrases à caractère ludique, caractérisé par sa difficulté de prononciation ou de compréhension orale, voire les deux à la fois. On parle aussi de trompe-oreille lorsqu'une phrase est difficile à comprendre et donne l'impression d'être en langue étrangère. Les virelangues peuvent servir d'exercice de prononciation dans l'apprentissage du français langue étrangère, sachant par exemple qu'une phrase contenant beaucoup de J ou mêlant des L et des R sera particulièrement difficile à articuler pour des personnes d'origine asiatique. Ils sont utilisés également, ces virelangues, comme exercice de diction, par les personnes ayant des difficultés à parler à voix haute en public. Par exemple, les présentateurs, les comédiens. D'ailleurs, les comédiens s'en servent aussi tout simplement pour se chauffer la voix. Avant certains spectacles, c'est assez drôle. Alors, certains virelangues sont construits pour amener une personne à dire une obscénité lorsqu'ils sont prononcés plusieurs fois de suite. Je vois Christophe qui sourit. Le mot virlangue est un néologisme et un calque du mot anglais tongue twister, qui fait tordre la langue. Mais il désigne un type de jeu de mots, lui-même très ancien. Brigitte Agulon m'a reçue longuement pour me parler de sa vie de conteuse de virlangue. Alors je vous rassure, elle ne fait pas que ça dans la vie quand même. Et elle m'a reçue aussi pour me faire partager le plaisir de les raconter et de les écouter. Et parfois aussi d'essayer de les déchiffrer. Alors c'est cet entretien que je vous propose d'entendre. Cet entretien va faire l'objet de deux émissions. Dans la première émission, que vous allez entendre tout de suite, il y a beaucoup de virlangue. Et dans la seconde, vous verrez, il y a aussi quelques petites surprises.
Merci Brigitte. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton point de départ, comment tu t'es intéressée aux virlangues
Il y a longtemps, j'étais une petite fille, je ne savais pas que j'allais m'intéresser aux virlangues, mais mon grand-père, qui était originaire de Bar des Cévennes et qui était herboriste à Nîmes, avait l'habitude de me raconter souvent, de me dire souvent, un petit pisseur pissait devant la porte d'un tapissier qui tapissait. Le tapissier qui tapissait dit au petit pisseur qui pissait. Mais petit pisseur, pourquoi pisses-tu devant la porte d'un tapissier qui tapisse ? Et le petit pisseur qui pissait dit au tapissier qui tapissait, parce que la pisse d'un petit pisseur, c'est bien meilleur que celle d'un tapissier. Et longtemps après, j'ai retrouvé cette histoire, et elle était inscrite, voilà, dans ma mémoire. C'était un petit jeu de grand-père à petite fille, et c'est pour moi le premier souvenir que j'ai de ce que j'appellerai après le virlangue. Comme j'ai toujours aimé, en poésie, les allitérations. Quels sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? Voilà. Ça, c'était la première chose. Et puis, j'aimais aussi ces vers de René de Obaldia, « Le jais gélatineux geignait dans le jasmin ». Bon, René de Obaldia, c'est un poète qui a écrit des choses très humoristiques en jouant avec la langue. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'articulation, ben bien sûr, je suis tombée sur les virlangues, le fisc fixe, exprès la taxe excessive à ex. Voilà, c'est ça un petit peu qui a fait mon parcours. Et un jour, j'entends une conteuse raconter un virlangue que j'appelle Scra, qui était dans un livre de contes pour que les conteurs, justement, se fassent la bouche, la voix, puisque c'est ça le but, en fait, des virlangues. C'est pour faire chuter le conteur, donc pour l'habituer à bien articuler, et un petit jeu de mémoire aussi, et en même temps, c'est fait pour faire virer l'oreille de celui qui est en face, qui ne comprend pas forcément. Et donc, c'est cette histoire de ces filles qui s'appellent Scra, et que moi j'ai transformé en une histoire qui raconte un petit quelque chose, ce que ne font pas souvent les virlangues.
Et tu nous la raconterais ?
Alors,
s'il te plaît.
Il était une fois, par-delà 3 fois 9 royaumes, dans le 3 fois 10e royaume, un petit village fait de maisons de bois que l'on appelle Isba. À la sortie du village, 2 isbas se font face. Dans l'isba de droite vit Mikhail Mikhailovitch Mikhailov. Et dans l'isba de gauche vit Stepan Stepanovitch Stepanov. Chez Mikhail Mikhailovitch Mikhailov, il y a 4 filles. 4 filles prêtes à marier, 4 filles belles comme la lumière du jour. L'aînée s'appelle Skra. La deuxième, Skra Skradera. La troisième, Skra Skraderaskré. Et la quatrième, de son petit nom, Skra Skraderaskré Skrudiskra. Dans l'isba de gauche, chez Stepan Stepanovitch Stepanov, il y a 4 gars. 4 gars plus mystérieux que la nuit étoilée. Ils sont prêts à marier eux aussi. Et l'aîné s'appelle Sep. Le deuxième s'appelle Sep Nepernep. Le troisième, Sep Nepernep Sep, et le quatrième, Sep Nepernep Sep, Sibri Sep. Et comme les racontent des histoires qui sont toujours bien faites, nos quatre gars et nos quatre filles face à face, ils n'ont pas tardé à trouver chacun sa chacune. Et le village a décidé de les marier tous les 8, le même jour. Alors on a fait une grande procession, depuis chez les fiancés jusque chez le pope. Et en route, on a chanté, on a dansé. Il y avait Varvara à la balalaïka, il y avait Sacha à l'accordéon, il y avait Simon au violon. On a chanté, on a dansé, on a chanté, on a bu. On a chanté, on a dansé, on a bu, on a chanté, on a dansé, on a bu et on a chanté, on a dansé. Quand on est arrivé chez le pope, il n'y avait plus personne qui savait qui s'appareillait avec qui. Sauf moi. Moi, je n'avais pas bu. Et moi, je sais que Skra a épousé Sep. Skra Skradera a épousé Sep Nepernep. Skra Skradera Skri a épousé Sep Nepernep Sep. Et Skra Skradera Skri Skrudi Skra a épousé Sep Nepernep Sep Sibri Sep. Facile. Et là, on a fait un grand mariage. On a mangé, chanté, bu, dansé, mangé, chanté pendant 3 jours et 3 nuits. Mais à un moment, ils ont trouvé que moi, j'avais trop bu et trop mangé, que je coûtais trop cher. Alors ils sont venus me chercher. Ils ont fait de moi une toute petite boulette. Ils m'ont mise dans une sarbacane, ils m'ont soufflé aux étoiles. Et c'est comme ça, sans doute, que je suis arrivée à Radio Bartas pour raconter mes petites histoires sans queue ni tête.
Merci beaucoup, l'étoile. Merci beaucoup.
Alors, pour reposer vos oreilles, voici une chanson de Gaston Ouvrard qui date de 1937, Le chien de Sacha.
Être chansonnier, c'est un bien fichu métier. Moi, je sais que ça me donne la trouille et je bafouille. Quand j'arrive en scène, aussitôt je deviens blême. Je n'ai pas le culot de Gerdac et j'ai le trac. Mais maintenant, j'ai un petit truc épatant. Et je chante au début de mon tour de chant une chanson faite pour ça que j'appelle le chien de Sacha. Écrite exprès pour poser ma voix. Mon trac se passe, ma voix se délasse en chantant sur Sacha ma petite histoire de chasse. C'est un chasseur français sachant chasser sans chien, sachant chasser dans les branchages desséchés. C'est un chien sans chichi et c'est le chien de Sacha. Sacha fait des chichis mais son chien n'en fait pas. Ce chien de chasse sait chasser avec d'autres chiens, mais Sacha chasse avec chichi et sans son chien. Il chasse à Chinon, ne le chinon pas quand il chasse, car s'il chasse à Chinon, sachons que c'est sans son chien. Quand il chasse, sachez bien que son chien de chasse qui ne chasse pas n'en sait rien. Et s'il chassait ce chien de chasse, sachez-le, ce n'est pas Sacha qui chasserait, croyez-le. C'est un chasseur français sachant chasser sans chien, sachant chasser dans les branchages desséchés. Le chien de chasse de Sacha ne chasse pas et sans chichi. Ce chien, quand il aboie, c'est le chien de Sacha qui crie. En septembre dernier, je vais chasser à Rambouillet, mais au contour d'un petit bois, qu'est-ce que je vois? J'en suis ahuri, c'était bien Sacha Guitry qui me dit à l'impromptu, m'as-tu vu? Je lui dis, mais oui mon vieux, je crois bien, justement, voudrais-tu me prêter ton chien? Mais il me répond comme ça, mais mon cher, je n'en ai pas, mon épagneul blond reste chez moi. Ce chien mignon vaut 1 million, et il ne sert qu'à épater dans mon salon, mon bon, à l'Auvergnat. C'est un chasseur français, sachant chasser son chien, sachant chasser dans les branchages desséchés. C'est un chien sans chichi, et c'est le chien de Sacha. Sacha fait des chichis, mais son chien n'en fait pas. Ce chien de chasse sait chasser avec autre chien, mais Sacha chasse avec chichi et sans son chien. Il chasse à Chinon, ne le chinon pas quand il chasse, car s'il chasse à Chinon, sachons que c'est sans son chien. Quand il chasse, sachez bien que son chien de chasse qui ne chasse pas, n'en sait rien. Et s'il chassait, ce chien de chasse, sachez-le, ce n'est pas Sacha qui chasserait, croyez-le. C'est un chasseur français, sachant chasser sans chien, sachant chasser dans les branchages desséchés. Ce chien de chasse de Sacha ne chasse pas et sans chichi. Ce chien, quand il aboie, c'est le chien de Sacha qui crie. Coustrava. On m'a dit que Sacha n'aimait pas cette chanson-là, qu'il l'a trouvée moche comme tout, mais je m'en fous. Je ne cherche pas de vice, ce n'est pour moi qu'un exercice, une façon de poser ma voix, ça se voit. C'est ainsi, pour être bien dans le mouvement, je chante le dernier refrain théâtralement. Essayez car c'est très bon quand vous serez à la maison. Il n'y a rien de tel pour chanter dans le ton. Il faut seulement, tout en chantant, se croire sur la scène en changeant un peu son accent. C'est un chasseur français, sachant chasser sans chien, sachant chasser dans les branchages desséchés. C'est un chien sans chichi, et c'est le chien de Sacha. Sacha fait des chichis, mais son chien n'en fait pas. Ce chien de chasse sait chasser avec d'autres chiens. Ben, Sacha chasse avec six et sans son chien. Il chasse à Chinon, ne chinons pas quand il le chasse. Car s'il chasse à Chinon, sachant c'est sans son chien. Quand il chasse, sachez bien que son chien le chasse, qu'il ne chasse pas, n'en sait rien. Et s'il chassait, ce chien de chasse, sachez-le, ce n'est pas Sacha qui chasserait, croyez-le. C'est un chasseur français, sachant chasser son chien, sachant chasser dans les branchages de CC. Le chien de chasse de Sacha ne chasse pas et s'en saisit. Ce chien, quand il aboie, c'est le chien de Sacha qui crie. Brrr, brrr, brrr.
Bon, alors je vous propose de retrouver Brigitte, notre conteuse émérite de Virelangue. Ouvrez toujours les oreilles. Et puis en plus, elle va nous dire son histoire préférée, Kiki Cocotte. Écoutez bien.
Et alors oui, comment tu es devenue conteuse de Virelangue? Est-ce que c'est ton métier principal? Est-ce que...
Enfin, je suis conteuse. J'aime raconter des histoires. Mais j'ai toujours été intéressée par les jeux de... J'ai toujours écrit de la poésie, j'ai toujours aimé les sonorités, j'ai toujours aimé lire à voix haute. Donc voilà, je pense que c'est indissociable, parce qu'on ne peut pas être conteur que de Virelangue.
Oui, non.
Après, ça pourrait s'associer à des histoires qui sont plutôt humoristiques, mais c'est vrai que... en fait, le démarrage, ça a été cette histoire, l'histoire de Scra. Parce que je me suis dit, tiens, on peut donc raconter quelque chose. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à fouiller. Je me suis rendu compte que le continent était immense. Et j'ai ramassé un petit ensemble de virelangues, dont celle que j'ai dit tout à l'heure. Et un jour, c'était sur l'île de Ré. J'ai participé à une animation et comme ça, je me suis lancée, j'ai raconté des virelangues, alors que les autres avaient raconté des histoires. Et à la sortie, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, vous savez, mon père avait l'habitude, parce que je racontais Kiki Cocotte très très court, ce qu'on trouve partout. Et elle me dit, vous savez, ça m'a beaucoup touchée parce que moi, mon père, à la fin des repas, surtout les repas de mariage ou les repas importants, mon père, il racontait toujours... Kiki Cocotte, mais pas la version que vous avez. Si vous me donnez votre adresse, je vous envoie la version de mon père. Waouh ! Et ça, c'était un magnifique cadeau parce qu'elle m'a donné un texte qui fait une page tapée à la machine et qui est une des versions de Kiki Cocotte parce que j'en ai entendu d'autres.
Ouais.
Et voilà. Et alors là, avec ça, du coup, je me suis sentie autorisée à raconter plus souvent, en chercher plus souvent, à en mettre, à commencer un conte avec un virelangue. Voilà. Donc je sens que vous allez me demander si je peux raconter Kiki Cocotte.
Ah oui ? Vraiment, tu es devineresse.
Elle s'appelait Kiki. Elle était cocotte. Il s'appelait Coco et il était concasseur de cacao. Depuis longtemps, la cocotte Kiki réclamait à corps et à cri à Coco concasseur de cacao un caracocaki à col de caracule. Caracole de caracule, le caracocaki paraissait plus coquet à Kiki Cocotte. Or, Coco concasseur de cacao ne sut se procurer que quelques caracocaki sans col de caracule ou quelques cols de caracule sans le caracocaki. C'est alors qu'un marquis caduc et cocasse vit la cocotte Kiki qui le conquit de ses quinquets coquins. Kiki Cocotte, voyant coqueter le marquis caduc et cocasse, en conclut qu'elle l'a conquis et lui confie que le cœur de Kiki est acquis par quiconque lui procure un caracocaki à col de caracule. Le marquis caduc et cocasse, acculé à casquer, calcule qu'un caracocaki à col de caracule vaut col de caracule sur caracocaki. Et racant d'un col en caracule et d'un caracocaki, caracole jusque chez Kiki et lui colle deux gros bécots sur ses quinquets coquins. Quand Coco, concasseur de cacao, voit que la cocotte Kiki a le caracocaki à col de caracule, il en conclut qu'un concurrent quitte Kiki, car le col en caracule et le caracocaki l'ont convaincu, et qu'il est donc cocu. Mais cocu, cocu par quel coq, par qui ? Et ne pouvant trouver qui le fit cocu avec Kiki Cocotte, Coco concasseur de cacao devient maboule, s'empare du caracocaki à col de caracule, couple kiki-kiki-cocotte et se carapate en criant « Côte, 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 codec !»
Et est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes sortes de virlangues? Par exemple, ceux qui peuvent avoir une signification un petit peu olé-olé.
Alors, bizarrement, moi qui raconte beaucoup d'histoires licencieuses, je ne me suis pas tellement engagée dans les virlangues coquins. Bon, je sais qu'il y a le virelangue Madame de Confoutu, par là Monsieur de Foutucon. Voilà, alors du coup, il y a des, ça fait des. Mais je n'en ai pas trouvé d'assez intéressant, à part
Mais ça, c'est trop direct, comme.
Voilà, moi je trouve que c'est un peu direct. Et il y a, c'est pareil, il y avait un texte de Clément Jeannequin, donc quelque chose d'ancien. Colla la collette à cula et lui dit mettez le cul là. Voilà, donc c'est très direct et du coup on est plus on est dans autre chose. Voilà.
D'accord. Et celles qui imitent, quand on les entend, qui imitent une langue étrangère.
Je pense que c'est là-dedans qu'on pourrait ranger par exemple Pionio, Kayonishba, Pichnicho, Kayonishba, où on a l'impression qu'on parle le russe ou.
Oui, quelque chose comme ça, ouais.
Voilà.
Pour terminer cette première émission sur les virlangues, voici une chanson d'un expert en la matière que tout le monde connaît, Bobby Lapointe.
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor, qui s'endort, ivre mort, au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar, car encore Igor y dort, mais près de son oreille. Merveille, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tes cocus qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocus, tac-tac-tac, cuité et quitter ton quartier. Tacati t'a quitté, ta tactique était toc. Ta tactique était toc, tacati t'a quitté. Hôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté. Et ta croûte au couteau, qu'on t'attend t'attaquer. Contre ta cocotée, quatre écus compter et quitte ton quartier. Tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catitas qui n'est un coquère coquin et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, un compte toqué qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup tic-tac-tic. Oh matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie.